Le secrétaire parlementaire Jean-Claude Poisson a répété le même discours bien des fois au cours de l'été.
À l'aide d'une politique alimentaire, nous pourrons mieux travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé, d'environnement, de société et d'économie. Nous voulons nous mettre à pied d'œuvre dès que possible. Nous avons beaucoup d'éléments à considérer et nous nous concentrons sur les 4 thèmes proposés.
Après de bonnes discussions aux différentes tables, on fait le point. Jérémy Gillot, adjoint de Jean-Claude Poisson, parle du premier thème.
Le premier volet, donc, afin d'améliorer l'accès à des aliments abordables, les points qui sont revenus le plus fréquemment sont améliorer des programmes éducatifs, les programmes de cuisine communautaire, les programmes pour sensibiliser la population à l'enjeu alimentaire. Le deuxième point qui est revenu assez fréquemment, c'est l'enjeu des déserts alimentaires. Un désert alimentaire, c'est un secteur dans lequel, à distance, à pied, vous n'avez pas accès à un supermarché, à un marché public, à une façon d'aller chercher proche des aliments frais de bonne qualité. Donc là, soit avec des programmes de livraison à domicile, soit avec augmenter le nombre de marchés publics ou le nombre de supermarchés. C'est un problème qui touche entre autres nos aînés qui ont de la difficulté à se déplacer lorsqu'ils arrivent à un certain âge. Le troisième point est celui du gaspillage alimentaire. Donc, vous savez, vous êtes sans doute sans savoir que à peu près 30% de la production est gaspillée.
Ces questions intéressent particulièrement l'un des invités.
Jean-François Chambault, directeur général fondateur de la Tablée des chefs. La Tablée des chefs nourrit les gens dans le besoin à travers la récupération des surplus alimentaires des chefs dans les hôtels et restaurants. On nourrit 500 000 de personnes dans le besoin avec la récupération de plus de 200 tonnes de nourriture. Et on développe l'éducation culinaire, l'autonomie alimentaire des jeunes dans les écoles secondaires avec des indices de défavorisation élevés. Partout à travers le Québec, on est dans une centaine d'écoles où les chefs vont à la rencontre des jeunes développer leurs compétences, leurs connaissances culinaires et alimentaires.
Qu'est-ce que vous attendez d'une politique canadienne, pan-canadienne alimentaire?
Qu'elle reflète les besoins. Souvent, on va à l'écoute des gens et après, on retient seulement que des parties. J'aimerais qu'elle reflète réellement la volonté des gens et que tous les gens qui ont été écoutés, que le concret qui va ressortir de la politique soit ce que les gens ont amené comme point dans les consultations et tout ça, qu'il y ait un reflet de ça. On ne peut pas tout prendre, ça c'est certain, mais si au moins on peut arriver à ce qui a été soulevé par les gens, parce qu'on a voulu aller à la rencontre des gens, je pense qu'on aura réussi.
Et ça ressort à plusieurs moments dans les consultations, oui. Ici et ailleurs, oui. Le fait qu'on doit mieux connaître l'alimentation, la cuisine, etc.
Définitivement. Je pense que l'éducation à tous les niveaux. Nous, on parle directement de montrer à des jeunes à cuisiner, mais on peut aussi montrer à des jeunes comment s'approvisionner. On peut aussi montrer comment cultiver, que ce soit seulement sur des connaissances, sur de l'observation, sur des pratiques agricoles, sur comment sont cultivés les aliments. Je pense que là, à différents niveaux, comment aller en épicerie pour consommer, faire des choix alimentaires aussi. Ça, c'est extrêmement important. Fait qu'à différents niveaux, l'éducation revient. Je pense que c'est la base de conscientiser la population à mieux manger puis à s'approvisionner de façon plus responsable.
Merci, M. Archambault.
Merci.
Au deuxième volet, sur la santé et la salubrité des aliments, on a parlé étiquetage, pesticides, OGM et réciprocité des normes pour les produits importés. Mais on a oublié un point important, notait aussitôt André Mousseau des producteurs en serre du Québec.
Quand je parle de santé, je parle de santé mentale. Comment ça peut être déstressant de pouvoir faire du jardinage, de pouvoir s'occuper, de faire d'autres choses dans la vie. Puis en même temps, c'est prouvé dans des études que l'horticulture mentale, ça réduit toute la période de réadaptation des gens dans une chambre d'hôpital quand il y a des fleurs, ça va plus rapidement au niveau de la vie. Puis on n'en traite pas du tout à l'intérieur de votre document. Puis un autre enjeu, que les îlots de chaleur dans les municipalités, c'est des arbres produits par notre industrie qui permettent de réduire les îlots de chaleur.
Bien sûr, au volet 3 sur l'environnement et la qualité du sol, de l'eau et de l'air, on a parlé d'aide à la transition vers la production biologique, de gestion responsable des déchets et de circuits courts. Le volet 4 suggère d'augmenter la production d'aliments de qualité supérieure. Jérémy Gillot résumait ainsi les discussions.
Le programme de gestion des risques, comme vous savez, le programme de gestion des risques offre des programmes de sécurité de revenus Et notre gestion de l'offre fait également partie d'une gestion des risques. Le point 2 qui est ressorti fréquemment, c'est un support au marketing, donc un support à la développement de nouveaux marchés, développement des nouveaux produits. Encore une fois, c'est un programme qui est offert par Agriculture Canada. Et le dernier point, c'est d'avoir accès à une main-d'œuvre de qualité qui est éduquée et bien formée pour pouvoir prendre la relève éventuellement dans ces entreprises-là.
Certains ont voulu ajouter, préciser des requêtes.
Bonjour, Jean-Pierre Haché de Bonduelle et travailleurs étrangers saisonniers. Chez Bonduelle, on récolte pas dans les champs, mais dans nos usines. La grandeur du Canada, c'est très, très difficile pour nous de trouver des travailleurs qui sont prêts à travailler du mois de juillet au mois de novembre. Les étudiants, c'est impossible. Le travail dur, c'est saisonnier. Une journée, tu travailles, une journée, tu travailles pas. Et plus on récolte pas, personne ne rentre. Donc, l'importance pour nous des travailleurs étrangers, c'est essentiel. Sans ces travailleurs étrangers-là, nos usines fermeraient et on se retrouverait à produire aux États-Unis.
C'est bon, les travailleurs étrangers, mais l'autre chose qui me dérange beaucoup, c'est le salaire minimum qui va monter à 15 $ graduellement. C'est ça que tout le monde essaie de faire. Mais le problème, c'est qu'on est Américains au Sud. La norme aux États-Unis, c'est 7,30 $. Même si on constate le taux d'échange, on arrive à discuter avec les compétitifs envers eux. Ça fait que n'importe quelle ferme agricole qui a de l'ouvrage manuel intense ou un haut niveau d'ouvrage manuel, va avoir de la difficulté à compétitionner avec les Américains.
Bien sûr, la question du salaire minimum relève des autorités provinciales, mais les représentants fédéraux ont tout de même noté le point. Vers la fin de la rencontre, j'ai pu m'entretenir avec le député de La Prairie et secrétaire parlementaire à l'agriculture.
Monsieur Jean-Claude Poisson, une autre consultation. Vous avez passé à peu près votre été à faire des consultations.
C'est une bonne nouvelle pour moi, pour vous, puis pour l'ensemble des Canadiens. Donc, on voit qu'il y a de l'intérêt. Quand les gens nous appellent et nous disent « on aimerait ça que tu viennes tenir les consultations », quand on arrive dans une salle comme aujourd'hui, il y avait environ 70 personnes, dans une municipalité rurale, c'est déjà bon signe, me semble.
Là, vous dites une salle, en fait, on est dans une tente.
Oui, bien, effectivement, là, on se comprend, M.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les moyens sont bons pour tenir la consultation.
Exactement. J'en ai tenu dans des salles, dans des municipalités rurales. J'en ai tenu une aussi à Saint-Hyacinthe, au centre BMO. Et aujourd'hui, on est ici, là, sous une tente à La Prairie, au marché des jardiniers. Quoi de mieux pour faire une consultation quand on est entouré de jardiniers, de ces producteurs-là aussi?
Qu'est-ce qu'on doit attendre comme citoyen de cette future politique-là? Est-ce que ce sera un genre de gros chapeau au-dessus de toutes sortes d'actions gouvernementales?
Moi, je pense qu'il est prématuré de dire de quoi va ressembler cette politique-là. Nous, les compilations vont se faire à partir de la mi-octobre. À la mi-octobre, nous allons terminer de faire les consultations. Et après ça, au printemps, pour qu'on arrive avec une politique qui devra être évolutif dans le temps aussi. Parce qu'on ne peut pas faire de grands, grands changements d'un coup sec. Il faut donner le temps à l'industrie, les producteurs, aussi à la mettre en place, toutes ces façons de faire-là que nous allons demander dans notre politique.
Parlant de consultation, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont allées sur le web, entre autres.
Ça, là, c'est une des meilleures nouvelles qu'on pouvait avoir. Autant d'intérêt. Il y a eu plus de 38 000 personnes. 38 000?
Jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant, là. Depuis le 19 juin, plus de 38 000 personnes se sont prononcées et la consultation en ligne se termine le 31 août. Donc, on peut facilement penser qu'il va y avoir plus de 40 000 avec les personnes que nous consultons à travers le pays, dont des tables comme ici, qui est une table régionale.
Je vais me faire l'avocat du diable, là. Quelqu'un vous rencontre, vous dit « Pourquoi une politique comme celle-là? Pourquoi établir une politique alimentaire canadienne? »
D'abord, c'est la première. Il n'y en a pas ici, dans notre pays, une politique alimentaire. D'abord, moi, je suis très heureux de voir que dans la lettre de mandat du ministre McCauley, M. Trudeau, a mis, justement, c'est parce que ça fait partie des priorités de notre gouvernement si on veut mettre une politique alimentaire. Et on sait qu'il y a des besoins. On l'a entendu ici aujourd'hui, on l'entend partout, il y a des besoins. Et sont différents d'une région à l'autre aussi. Donc, il faut s'ajuster avec les régions. Donc, les régions éloignées, on a eu ici aujourd'hui des gens qui sont descendus de la baie James pour donner leurs commentaires. C'est pas rien, là, la baie James.
Et donc, ce sera un genre de guide général, cette politique-là. Bien sûr, on ne connaît pas le détail, mais ça, on peut le considérer comme ça.
Effectivement. À partir de ce qu'on a entendu, il va y avoir une politique qui va en sortir et ça devrait être général, mais qui va être évolutif, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour que tout le monde puisse s'arrimer avec le temps sans faire de bouleversement.
Toute dernière question. Et bien sûr, il faudra
ajuster, arrimer des choses avec les gouvernements provinciaux, dont le Québec.
C'est certain qu'on sait que présentement, au Québec, il se tient un sommet sur l'agriculture. Donc, nous autres, nous allons être complémentaires à leur consultation aussi. Nous, ça va être au niveau national, mais eux, on va pouvoir s'arrimer parce que les deux ministres de l'Agriculture se parlent, hein? Ils s'échangent sur leur consultation présentement.
M. Poisson, merci.
Merci beaucoup, M. Levac.
Ici Lionel Levac. La collaboration semble bien établie entre Ottawa et Québec sur cette question de politique alimentaire. Québec prépare sa politique bioalimentaire et immanquablement, il y aura des recoupements entre les deux documents. Mais vous aurez noté que Jean-Claude Poisson entend laisser au ministre québécois Laurent Lessard toute la latitude que la Constitution et la pratique habituelle au pays laissent aux gouvernements provinciaux. Il semble donc qu'il n'y aura pas de dédoublement. Ce qu'un gouvernement fera, l'autre ne le fera pas. Le mot de la fin à Jean-Claude Poisson.
Une politique alimentaire, on est dû en avoir une au pays. Il y a eu deux tentatives par le passé d'en mettre une en place, puis ça n'a jamais abouti. Mais celle-là va aboutir. C'est certain qu'elle va aboutir. Et elle va être à l'image des Canadiens puis des consommateurs du pays. Puis vous faites partie de ces gens-là. Donc, merci, bon après-midi.
À bientôt.